Bon, ben Jonathan, revenons sur le point de presse de M. Legault hier, au-delà là, du bâton sorti pour frapper les non-vaccinés. On a compris que le docteur Arruda, là, c'est pas une démission, je dirais, surprise, là. Ça s'est parlé, puis c'est présente-moi ta démission, puis je te dirai pas non, là.
On a presque l'impression que ça s'est fait d'un commun accord. Moi, je m'attendais à un hommage bien senti. Puis, je suis pas en train de te dire que j'ai pas senti que le premier ministre s'était touché, mais il y avait une espèce de malaise, de mélange d'émotions et de malaise par rapport aux dépenses du docteur Arruda, parce qu'on souligne son travail, mais en même temps, François Legault a dû le répéter 10 fois qu'il avait quand même des avantages à renouveler le message, ce qui n'est pas faux en soi. Mais je t'entendais dans ta revue de presse parler du fait que ça revient beaucoup qu'on dit qu'il était fatigué, qu'il était épuisé, qu'il a besoin de se reposer. Des personnes, des hommes qui sont habitués d'avoir de la prestance, de l'importance, c'est très rare qu'ils vont vouloir reconnaître qu'ils étaient fatigués, qu'ils étaient épuisés. Donc moi, je ferai attention du côté du gouvernement à pas trop piquer Dr Arruda, qui à un moment donné va peut-être...
Non, mais c'est pas aller vous poser, prenez plusieurs semaines.
Oui.
Tu sais, c'est comme... Je me souviens quand René Lévesque a quitté le Parti québécois, on lui a offert un billet d'avion pour qu'il fasse le tour du monde. Puis il avait répondu, vous voulez vraiment que je parte longtemps? C'était un peu ça, quand ce que tu dis est vrai, là, quand tu piques les gens comme ça.
Exact. Donc moi, je pense que, puis bon, éventuellement, on va tourner la page puis voir ce qui va se passer avec le docteur Boileau, mais... Ça aurait été inévitable que le gouvernement aurait pris la décision de passer à autre chose. Je pense qu'ils auraient dû le faire avant, par exemple, après la troisième vague, mais on ne réécrira pas l'histoire. Mais là, Dr Arruda lui a précipité cette décision-là devant le tollé.
Il y a des gens qui m'ont dit hier, ça sous toute réserve, là, que ce qui l'a profondément choqué ou blessé, là, je ne pourrais pas te le dire, c'est le fait qu'il soit critiqué par des journalistes, c'est une affaire, là, mais que des experts se prononcent contre sa vision des choses. Que la santé publique de Montréal, on m'a dit ça hier, là, a viré de bord suite à une directive de Québec en disant, nous autres, on fait pas ça puis on pour ce qui est des garderies, ouais. Des périodes d'isolement. Ça, je pense que ça l'a touché, oui. Bien plus que n'importe quelle chronique dans un
journal. Assurément, je me suis laissé dire, moi aussi, hier, que dans le temps des fêtes, il y aurait eu une réunion avec les différents directeurs de santé publique là, régionaux où ils se seraient fait shaker le pommier là, sur la prise de décision pour le nombre de personnes. Des directeurs qui disaient, voyons, vous êtes en train de parler de 20 à 25 personnes, alors que nous, on vous suggérerait de limiter ça à 5 à 10, maximum 2 bulles ou même à la limite une bulle. Il y avait vraiment une déconnexion aussi qui est en train de s'opérer avec l'ensemble du réseau. Je pense que ça n'a pas aidé.
Bon, alors, la taxe pour les anti-vax, on ne sait pas encore comment ça va marcher. Là. On connaît le principe. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous allez payer une contribution santé supplémentaire.
Oui, 3 angles que j'ai envie d'aborder avec toi, avec les auditeurs. L'angle légal, la faisabilité puis l'efficacité. Commençons par l'aspect légal, parce que un peu comme Luc Dionne par rapport à District 31, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce qu'ils ont vraiment le droit de le faire? Je sais qu'il y a déjà plusieurs experts qui se sont prononcés. Moi, je me suis entretenu hier avec un avocat, un spécialiste, maître Jean-Philippe Groslot, qui est chez Davies, même firme d'avocats que Lucien Bouchard, spécialiste des questions constitutionnelle et des droits de la santé. Il y a 2 choses. Il y a la Charte des droits et libertés. Ce que cet avocat-là me disait, puis évidemment, chacun peut avoir son interprétation, c'est que comme on ne s'attaque pas à une minorité historique, par exemple, il voyait pas de problème avec cet aspect-là. L'autre élément, c'est la loi canadienne sur la santé. Parce que déjà, plusieurs ont rappelé qu'en 2017, lors du débat sur les fameux frais accessoires, Gaétan Barrette qui avait voulu les encadrer, et là, le fédéral avait dit non, ça viole les principes de la loi canadienne sur la santé, donc on pourrait couper les transferts en santé, et c'est là que le gouvernement du Québec a décidé d'abolir les frais accessoires. Donc là, certains ont eu le réflexe de dire, ben, est-ce qu'encore là, ça viendrait contrevenir à la loi sur la santé? Cette loi-là, elle se lit plutôt bien, là, c'est 7-8 pages, je ne veux pas rentrer dans des détails techniques, mais lorsqu'on parle, par exemple, de l'objectif premier de la loi, c'est de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé sans obstacle d'ordre financier. Donc, essentiellement, quand on lit la loi, là, lorsqu'on parle des principes d'universalité, d'accessibilité, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un ait un frein à se faire soigner. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui aient moins de chances de se faire soigner que d'autres. Donc, si le gouvernement avait voulu arriver avec un ticket modérateur ou avec un principe d'amende si tu as besoin du système de la santé et que tu es non vacciné, là, ça aurait pu faire obstacle. Dans la mesure de ce qui nous est présenté, moi, cet avocat-là me dit « je n'y vois pas de frein ». Maintenant, est-ce que le fédéral pourrait, lui, s'opposer? Hier, je sais qu'il y a des gens qui ont noté qu'il y a un député libéral qui s'est exprimé sur les médias sociaux, sur Twitter, le député de Louis-Hébert, Joël Lightburn,
oui.
qui a dit « La COVID nous fait perdre beaucoup, mais il ne faut pas lui donner le pouvoir de nous faire perdre nos principes. » Et il a mis des captures d'écran, justement, de la loi canadienne sur la santé. Hier, on me disait que le député avait exprimé une opinion personnelle.
Un petit moment perso, là.
Ben, il n'a pas validé avec le bureau du premier ministre, mettons. Parce que faut se rappeler que Jean-Yves Duclos, l'actuel ministre de la Santé, lui, la semaine dernière, a laissé entendre que les provinces devraient peut-être, ultimement, envisager la vaccination obligatoire. On me rappelait également que le fédéral, lui, n'a pas hésité à imposer la vaccination à ses employés. Bref, que... Après ma barre, au niveau idéologique, le fédéral ne semble pas y voir d'obstacles ou de problèmes majeurs, sauf que, du côté de la santé, ils sont en train justement d'évaluer ça avec les juristes. Donc ce matin, Justin Trudeau, il fait son point de presse quotidien. Tu seras surpris de l'entendre avoir des propos vagues et convenus où il va dire que les provinces...
Ben, il va dire, je vais attendre de voir, c'est ça, les détails,
parce qu'ils
sont pas connus.
L'autre aspect, je te parlais de la faisabilité. J'étais curieux d'entendre l'avis d'un ancien ministre des Finances. Je me suis entraîné avec Carlos Slater, un député libéral, hier. Et ce que lui disait, c'est que les fonctionnaires de Revenu Québec doivent être en train de se casser la tête en ce moment. Parce que ça doit être très, très, très difficile juste de penser à comment on pourrait faire ça. Écoute, Paul, juste de rentrer le passeport vaccinal dans les SQDC puis les sacs, ça prend 3 semaines. Il faut envoyer 1000 cellulaires, faut leur fournir ça. Donc, imagine de se virer de bord puis d'arriver avec un principe en fiscalité pour imposer les gens non vaccinés. Au niveau de la faisabilité, M. Létard est pas sûr que c'est faisable.
Puis les non vaccinés, c'est pas une catégorie là, unique. Là. C'est-à-dire que t'as des itinérants, t'as des gens qui ont des troubles de santé mentale. Ce que je veux dire, là, c'est pas juste le gars qui manifeste qui est actif sur les réseaux sociaux. C'est bien du monde là, qui...
Exact. Est-ce que tu y vas avec une modulation selon le revenu? Ouais. Bref, Carlos Létard n'est pas convaincu du rapport coût-bénéfice. Puis l'autre question, c'est l'efficacité. Est-ce que cette mesure-là, c'est pour que les Québécois aient un sentiment de vengeance, de justice, ou ça va vraiment changer quelque chose à court terme dans le système de santé? Je pense que la question se pose.
Bon, là, j'ai un petit malaise que je voudrais partager avec toi ce matin, que tu as vu là, sur les réseaux sociaux. On sait qu'Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur, tient des activités sur le web. Et la députée Claire Samson a participé à la discussion.
Oui.
Qui est tournée autour du docteur Arruda, du témoignage à venir de Marguerite Blais devant la coroner. On va écouter ça. Puis je vous le dis, là, c'est quelque chose.
Oui, mais ils ne flusheront pas Christian Dubé. Mais
non, ils ne peuvent pas flusher deux ministres de suite, là.
Non, là, je ne sais pas qui ils vont flusher.
Mais Marguerite Blais, d'après moi, son témoignage cette semaine, elle, ça va être dur.
Marguerite est morte, là. Là, elle va comparaître vendredi prochain, elle va pleurer, puis là, ils vont la crisser en dessous d'autobus.
OK, tu penses que Marguerite, elle s'en va jouer dans
le jeu? Moi, je suis contente d'être partie de là, parce que c'est moi qui aurais mis là, tu comprends?
T'aurais été ministre des aînés, puis c'est toi qui aurais été poigné à défendre l'indéfendable.
Bon, ça, c'est un court extrait, et si je résume pour les auditeurs, parce que c'est visuel, là, Mme Samson est cadrée tout croche. Puis apparaît une coupe de vin pas mal remplie, a pas l'air, très bien. Là, t'sais. Puis là, t'sais, c'est pas dans un coin privé chez elle, elle est en pyjama, en plus. T'en penses, toi?
Mais j'ai l'impression qu'elle est en train d'imiter Marc Labrèche qui l'imite. On dépense carrément la caricature.
Ouais.
Puis au-delà des blagues qu'on peut faire, c'est que cette personne-là, elle est supposée d'être l'espèce de caution morale, la crédibilité que le Parti conservateur du Québec veut aller chercher. Et c'est l'image qu'elle véhicule. Je cherche encore un élu à la CAQ qui s'ennuie de Mme Samson. Mais en même temps, pendant que toi et moi, on fait jouer cet extrait-là, pendant que j'ai vu des montages déjà qui deviennent très, très, très partagés sur les médias sociaux, eux vont dire « Ah, regardez là ». Regardez comme ils sont en train d'essayer de nous ridiculiser.
Ben, on n'a pas besoin de le faire, ils font ça très bien tout seuls.
Je sais, mais eux, ils se servent de ça comme carburant pour mobiliser leurs troupes, si on veut. Là. D'ailleurs, je vais t'en reparler, mais Éric Duhaime a commis une biographie. Là.
Ah oui?
J'ai lu ça dans le temps des fêtes.
C'est ouais. un livre ou sur le web?
C'est, quoi? C'est une biographie, un livre qui a été okay. écrit par le prof de philosophie Frédéric Tétu, qui est associé à la droite libertarienne. Une lecture assez intéressante. J'aurai l'occasion de t'en reparler.
Là, tu t'en vas pas comme ça, là, qu'est-ce qu'il raconte? Là?
Ben, c'est que dans le fond, c'est un livre où, tu sais, le genre de biographie qu'un politicien va publier avant une année électorale pour se présenter aux gens. Donc, c'est un livre dans lequel on vient un peu ériger la statue d'Éric Duhaime, raconter son parcours. Ah oui, écoute, il était de tous les instants, autant avec Gilles Duceppe, de tous les combats avec Gilles Duceppe, avec Mario Dumont. Puis
avec des rôles-clés, j'imagine.
Oui, ben, tu sais, j'ai fait un peu de fact-checking, là. J'ai parlé avec M. Duceppe. Ben, Éric Duhaime a toujours été très apprécié. On va se le dire, là, c'est un gars intelligent. Mais comme, par exemple, dans le livre, un passage, on dit qu'Alain Sancartier, alors directeur de cabinet de Mario Dumont, avait été dépêché au Maroc avec comme seule mission de ramener de force Éric Duhaime pour venir travailler pour l'ADQ, pour préparer une campagne électorale, pour être la personne qui écrirait le script de la campagne électorale de l'ADQ. On me dit que c'était un peu fort de café, là, qu'il n'y avait pas personne qui avait été dépêché au Maroc uniquement pour ramener Éric Duhaime. Mais c'est intéressant pour les gens qui veulent le connaître davantage, mais c'est un peu un pamphlet aussi politique.
Salut, on se retrouve demain, 7h12.